Bonjour, donc je m'appelle Pierre Barré, je suis ingénieur de recherche et je travaille à Clermont-Ferrand dans un laboratoire de recherche qui travaille sur le blé exclusivement. Et donc je vais vous présenter rapidement les éléments plus techniques qui vont, j'espère, vous aider à saisir un peu ce qu'est le génome editing. Donc génome editing, à quoi ça sert? Ça sert à créer des variants dans l'ADN des plantes principalement. On va parler de plantes aujourd'hui. Et donc vous savez ou vous ne savez pas, mais vous allez le savoir que l'alphabet de l'ADN, c'est 4 lettres, ATGC, mais on peut rapporter cet alphabet aux lettres de notre alphabet. Et donc je vais vous expliquer en tout premier lieu quelles sont les deux principales techniques qui sont utilisées. La première, vous en avez entendu parler, c'est CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 ou CRISPR-Cas9, c'est la découverte initiale qui a fait que Emmanuel Charpentier a eu le prix Nobel de chimie. Et donc, que fait CRISPR-Cas9? CRISPR-Cas9 va générer des erreurs à un endroit précis dans l'ADN des plantes. Alors, si je veux faire une analogie, je ferai une analogie. Si vous aviez à recopier un livre, donc j'ai pris un livre, hein, Belle du Seigneur, qui fait 1100 pages. Donc si vous aviez à recopier ce livre et si vous vouliez faire une analogie avec l'ADN du blé, vous auriez à recopier 6500 fois ce livre. C'est ce que font les mécanismes de réplication de l'ADN. Et donc pour avoir une idée de CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas9 se positionne à un endroit, ou à l'endroit où vous allez recopier, à un endroit dans un des 6500 livres, et va vous empêcher de recopier correctement. Toujours à cet endroit-là. C'est-à-dire, vous allez recopier vos 6500 livres une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois, au même endroit, CRISPR-Cas9 sera là pour vous faire faire une erreur. Et donc, l'idée, vous voyez, c'est de faire un variant, c'est-à-dire les 6500 livres ont bien recopié, sauf à un endroit où il va y avoir un variant, il va y avoir une erreur. Et cette erreur, la mécanistique de lecture de l'ADN va la voir comme quelque chose qui ne peut plus être lu. C'est-à-dire que quand l'ADN va être lu, on ne va plus comprendre et donc on va générer une information qui ne sera plus là. Donc il faut bien comprendre ça. CRISPR-Cas9, c'est pour enlever une information à un endroit précis dans cette immensité d'ADN. La deuxième technique qui est aujourd'hui en émergence, c'est ce qu'on appelle le prime editing. Et là, on est vraiment dans ce qui correspond au titre qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire l'édition du génome. On est en train de recopier ces livres, mais à un endroit précis, on va non pas faire une erreur pour générer une absence d'information, mais modifier l'information. Donc, dans la première technique, on avait un allèle, ce qu'on appelle un allèle en génétique, c'est-à-dire quelque chose qui s'annule. Dans la deuxième technique, on a quelque chose qui varie, c'est-à-dire on va avoir quelque chose de différent mais de fonctionnel. Donc c'est les deux principales technologies qu'on utilise aujourd'hui. Et pourquoi on les utilise en recherche? Donc pour créer de la variabilité, de la diversité, parce que c'est ça qui nous intéresse, soit pour comprendre, soit pour des applications. Alors quel est l'intérêt de créer des variants négatifs? Nous en recherche, ça nous permet de comprendre ce que fait, alors quand je vous parlais tout à l'heure que vous alliez écrire à un endroit, vous avez une phrase, on pourrait dire que cette phrase qui a un sens, ça correspond à ce qu'on appelle un gène dans l'ADN, c'est-à-dire une séquence qui a une information. Et quand on utilise la première technique qui est CRISPR-Cas9, cette technique va permettre de supprimer cette information. Vous voyez que l'ADN va être recopié, à cet endroit-là, il va y avoir une erreur, le gène et l'information qu'il porte va être supprimé. Et donc, par exemple, on prend une plante qui a l'information, on la supprime et on regarde ce que ça fait. Est-ce que cette plante devient plus résistante à une maladie? Est-ce qu'elle est plus petite? Est-ce qu'elle fleurit plus tard? Et donc, ça nous permet de comprendre ce que fait le gène dans la plante. Donc ça, c'est la première technique. On supprime le gène pour savoir ce qu'il fait. Et la deuxième technique, le prime editing, et comme je vous l'ai dit, ça permet de réécrire. Là, ça nous permet d'effectuer des changements plus fins, non pas pour savoir ce que le gène fait parce qu'on l'a compris avant, mais pour savoir comment ça se fait. C'est-à-dire que le gène, on va le modifier et on va essayer de comprendre comment il fonctionne avec d'autres gènes ou dans la cellule. Et donc en faisant des petites modifications qui vont nous aider vraiment à comprendre. Alors je vais vous donner deux exemples Parmi tant d'autres de ces applications, les applications qui sont en cours chez nos collègues chinois, c'est la résistance à l'oïdium chez le blé. Chez le blé, l'oïdium, c'est-à-dire un champignon qui attaque et qui pousse sur les feuilles, est un problème en Chine. Ce n'est pas trop un problème en France, mais c'est un problème en Chine. Et nos collègues chinois ont identifié des gènes de sensibilité à ce champignon, c'est-à-dire des gènes de la plante que le champignon utilise pour coloniser les feuilles et prospérer sur la plante. Et donc, ce qui fait, vous avez sûrement compris, avec CRISPR-Cas9, qu'est-ce qu'ont fait ces collègues chinois? Ils ont éteint les gènes de sensibilité dans le blé et ils ont obtenu un gain de résistance, c'est-à-dire un blé qui est plus résistant à la maladie que le blé initial. L'idée, évidemment, c'est d'éviter de dépendre des pesticides ou de traiter contre l'oïdium et d'avoir une résistance intrinsèque à la plante. Donc ça, c'est la première application qui a fait l'objet, il y a quelques années, d'une publication magnifique dans Nature, avec des perspectives jusqu'à des applications en agriculture. L'exemple 2, c'est l'exemple que nous citons souvent nos collègues d'Avignon qui travaillent sur la résistance au virus chez la tomate. Chez la tomate, il y a un virus qui attaque la tomate et qui se sert des mécanismes de la tomate pour se répliquer. Et donc dans ce cas-là, on ne peut pas éteindre le gène parce que ce gène est utilisé par la tomate pour répliquer son ADN, mais il est aussi utilisé par le virus pour répliquer l'ADN du virus. Et donc ce qu'ont fait les collègues d'Avignon, c'est non pas d'éteindre le gène, mais en utilisant la deuxième technologie que je vous ai décrite, ils l'ont légèrement modifié pour que la tomate puisse continuer à se servir du gène, mais que le virus, lui, n'arrive plus à s'en servir. Et c'est des modifications très précises et qui nécessitent la technique de prime editing pour faire ça. Ensuite, je vais vous parler de deux autres choses. Quelle est la différence entre un OGM et d'une plante issue de génome editing? Alors, la première différence, c'est le franchissement de la barrière des espèces. Dans la plupart des cas, on va réécrire, alors on va soit éteindre un gène, soit réécrire quelque chose qui existe déjà. Et donc, on ne franchit pas la barrière des espèces comme dans le cas des OGM. Et même, il n'y a pas d'ajout d'ADN exogène. On ne parle plus de plante transgénique. C'est une plante qui est un variant quasiment et très proche de ce qui pourrait être fait dans la nature. Et d'ailleurs, la différence entre un OGM, qui est une plante qui ne pourrait absolument jamais arriver dans la nature, telle que les OGM qui ont été faits, à une plante issue de génome editing, pourrait arriver dans la nature. D'ailleurs, mes collègues sélectionneurs me disent que les plantes que je pourrais faire, moi, avec par exemple du prime editing, eux, ils pourraient les faire si je leur donnais de quoi mettre des millions, voire des milliards de plantes dans les champs. Ils en trouveraient une qui aurait les mêmes caractéristiques que celles que je pourrais faire, moi, dans le laboratoire. Et donc, ça pose un problème qui est la dernière chose dont je vais parler, c'est la traçabilité. Vous voyez bien que si on est très proche de quelque chose qui pourrait être fait dans la nature, ça va être très compliqué à tracer. Je prends l'exemple que j'ai repris tout à l'heure, 6 500 fois Belle du Seigneur, 16 000 km avec une base tous les millimètres, on va aller changer une base à un endroit précis, et une base qui existe déjà dans la nature. Et donc, il n'y a pas de transgène, il n'y a pas de trace à l'endroit où on a changé la base, on a juste fait comme si on avait croisé notre plante avec une autre plante et qu'on avait introduit cette base provenant d'une autre plante. Et donc, il n'y a pas de test aujourd'hui connu qui permette de tracer cette plante. Et donc, ça pose un problème qui induit, dans la réflexion européenne, un changement de législation. C'est-à-dire que toutes les plantes que nous générons aujourd'hui en génome editing sont des OGM depuis 2018. Il y a une décision au niveau européen. Mais aujourd'hui, le développement de ces techniques et le fait qu'il y ait quand même quelques problèmes pour les tracer et le fait qu'elles ressemblent comme deux gouttes d'eau, voire même qu'elles sont strictement identiques à des plantes qui pourraient être obtenues par des méthodes naturelles, fait qu'au niveau européen, il y a une réflexion qui conduit à se demander quelle est la nouvelle réglementation qu'on doit mettre en place? Est-ce qu'il faut sortir ces plantes issues de génome editing de la réglementation OGM? Et donc, vous voyez que là, j'introduis la suite de la présentation pour Pierre Benoît, qui va pouvoir prendre la main.
Merci beaucoup, Pierre, pour cette transition idéale. Donc, je m'appelle Pierre-Benoît Joly. Je suis directeur de recherche à INRAE et spécialiste de socio-économie de l'innovation. Donc, dans le prolongement de ce qu'a dit Pierre, effectivement, ces nouvelles techniques d'édition du génome posent de nouvelles questions et donc soulèvent de nouveaux enjeux. Donc, il y a un travail qui se fait au niveau européen, bon, sachant que la question de savoir si les techniques d'édition des génomes et les plantes éditées ou les plantes qui ont connu des mutagénèses dirigées doivent être réglementées comme des OGM, c'est une question en fait qui a déjà une assez longue histoire. Pierre faisait référence à la décision de 2018, c'est une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, suite à une saisine du Conseil d'État par la Confédération paysanne, et donc cette Cour de justice a eu à statuer sur la question. Donc, deux questions, hein. Est-ce que on doit considérer les plantes édité comme des OGM, première question. Et deuxième question, est-ce qu'il faut les réglementer comme des OGM? À la première question, il a été répondu oui, étant entendu que c'est assez évident, je pense que c'est assez peu contestable. Hein, donc les OGM sont définis actuellement en Europe par la directive 2001-18, qui définit les OGM comme des organismes vivants qui sont modifiés par des méthodes non naturelles. Et en gros, ce sont des méthodes microbiologiques, des méthodes de biologie cellulaire ou de biologie moléculaire qui sont considérées dans le droit comme non naturelles. Donc, à cette première question, il a été répondu oui. À la seconde question, donc, faut-il réglementer ces plantes comme des OGM? À l'époque, la Cour avait répondu oui. Depuis, la Commission européenne a repris le dossier et a travaillé sur un texte réglementaire, donc une réglementation alors sur on dit les NGT ou les NTG, donc en français c'est les NTG, donc les nouvelles technologies génomiques, et elle a proposé de faire une distinction entre deux catégories de NTG, c'est vraiment raccord avec ce qu'a indiqué Pierre. La première catégorie, les deux exemples que Pierre a pris relèvent de cette catégorie. Donc, ce sont des plantes modifiées, sans intégration, sans insertion d'ADN extérieur, et donc des plantes qui pourraient apparaître naturellement. Et donc, elles sont considérées dans ce règlement comme équivalent aux plantes conventionnelles. Et à l'opposé, donc les plantes, les NTG de catégorie 2 qui regroupent les autres transformations, et en gros, ce sont des transformations qui passent par l'insertion d'ADN extérieur, et donc les NTG 2 donc, ne sont pas sont réglementées, sont équivalentes à des OGM, et donc ne sont pas, sont réglementées comme des OGM, alors que les NTG 1 sont considérés comme des plantes qui pourraient être obtenues par sélection naturelle et donc ne font pas l'objet d'une réglementation OGM. Donc ça, c'est vraiment très important, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'étiquetage obligatoire des produits issus de ces plantes, il y a un étiquetage obligatoire de leurs semences, il y a une obligation également de permettre aux autorités compétentes de vérifier que ces plantes correspondent à la catégorie NTG 1 et qu'il ne s'agit pas de NTG 2. Donc ça, c'est quelque chose qui va changer beaucoup d'éléments, hein, puisque comme vous le savez jusqu'à présent, concernant les OGM, les vieux OGM, disons, on a en Europe un moratoire de fait, et là, potentiellement, il peut y avoir une utilisation plus facile de ces NTG de catégorie 1. Donc ça, c'est le premier élément. Alors, le second élément sur lequel je voulais venir très rapidement, c'est les questions de propriété intellectuelle qui ont été également discutées à l'occasion de l'examen par le Parlement de cette de ce règlement. Alors, un rappel rapide sur la propriété intellectuelle dans le domaine des semences. Il y a quelque chose qui est très particulier, très spécifique, c'est que dans ce domaine, il existe un droit sui generis qui est le droit de l'obtention végétale. Et le droit de l'obtention végétale se distingue très très nettement du brevet. En gros, les deux caractéristiques du droit de l'obtention végétale, c'est un, qu'il y a une exemption du sélectionneur, et deux, qu'il y a un privilège de l'agriculteur. Donc le privilège de l'agriculteur, c'est le droit conféré à l'agriculteur de reproduire ses semences sur son exploitation. L'exemption du sélectionneur, c'est quelque chose qui est également fondamental du point de vue de l'organisation des rapports entre les différents acteurs. En gros, c'est simplement l'idée que je peux utiliser une variété protégée par un certificat d'obtention végétale dans mon schéma de sélection. Si j'obtiens une nouvelle variété, cette variété pourra être protégée par un nouveau COV, certificat d'obtention végétale, et ce nouveau COV sera indépendant en droit du premier. Donc je n'aurai pas à demander l'autorisation au titulaire, au propriétaire du premier COV pour commercialiser ma propre variété. En droit des brevets, c'est complètement différent. Je peux utiliser un brevet à des fins de recherche, mais si, et je peux obtenir une nouvelle invention, et cette invention peut être elle-même protégée par un brevet, mais je ne peux pas utiliser cette invention, et donc ce brevet, sans l'autorisation du propriétaire du premier brevet. Donc il y a une dépendance stricte, et cette dépendance, en fait, est un changement très important de règles du jeu entre les différents acteurs. Alors, ces questions de droit de propriété intellectuelle sont essentielles, sont d'autant plus essentielles que leur mise en œuvre va dépendre des rapports de force entre les acteurs. Et c'est là-dessus que je voudrais finir en soulignant le fait que depuis la fin du XXe siècle, il y a eu des mouvements de concentration très importants dans le domaine des semences et des agrobiotechnologies. En gros, les deux premiers font 25% du marché, les six premiers font 40% du marché. Quand on regarde les portefeuilles de brevets, on réalise que les deux premiers concentrent 80% des brevets. Donc il y a une concentration très très forte des efforts de recherche, et donc potentiellement une possibilité d'appropriation de l'innovation au niveau international par les principaux leaders, possibilité d'appropriation qui sera d'autant plus importante que on l'a vu avec les possibilités de protection par brevet des inventions, mais en fait on peut avoir un blocage des utilisations dépendantes. Quand le Parlement a examiné ce règlement, en première lecture, il avait proposé des amendements qui interdisaient le brevet des NTG, des plantes éditées. Dans les négociations qui s'en sont suivies au niveau de ce qu'on appelle le trilogue, donc les interactions entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil, cette interdiction a été abandonnée, ce qui est assez regrettable. Et donc là, il y a une alerte qui est donnée par différents acteurs sur les risques que l'on encourt avec ces dispositions, donc, et cette possibilité effectivement de protéger l'innovation par brevet dans ce domaine, et donc les risques qui pèsent sur la remise en cause de l'exemption du sélectionneur. Donc c'est un point qui est vraiment très important. Je finis avec la mention du PEPR, donc du programme et équipement prioritaire de recherche sélection végétale avancée, qui est un programme qui est dédié aux techniques d'édition de génome. Et dans le cadre de ce programme, nous avons une task force, donc un groupe de travail sur ces questions, sur les impacts de la propriété intellectuelle sur l'innovation dans ce domaine. Merci pour votre attention.